parler un petit peu d'histoire aujourd'hui, ce matin plutôt. On va parler de l'épave du Machault, qui est un vestige d'une frégate française construite en 1757. Elle a coulé le 8 juillet 1760. Puis récemment, il y a quelqu'un qui a fait une conférence sur le sujet pour nous en parler. On a M. Fernand Doucet au téléphone. Ça va bien, M. Doucet?
Oui, bien merci.
Hey, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
De rien, c'est un plaisir.
Alors, parlez-nous un petit peu de... Parce que vous étiez plongeur pour aller voir l'épave en question qui est dans la baie des Chaleurs du côté de Pointe-à-la-Croix.
Ben, je suis devenu plongeur par la force des choses. Je n'étais pas plongeur comme certains des plongeurs. En 69, on était 16 plongeurs, dont certains avaient énormément d'expérience. On avait un Allemand, je pense que ça faisait 20 ans qu'il plongeait, puis dans des circonstances assez difficiles. On avait un Australien. On avait quelques étudiants d'université qui avaient suivi des cours de plongée à l'université. Moi, j'ai suivi mon cours dans une piscine privée à Camelton. Ça a duré 15 minutes, puis j'ai été certifié.
Mon Dieu, ça a été rapide!
Dans le temps, c'est Robert Grenier à l'époque qui était le directeur adjoint du projet. Comme on était amis, on était trois gars amis. On sortait avec trois chanteuses, chacun une chanteuse. Et Robert m'avait invité à participer à la première année de plongée. Ça m'intéressait parce que quand j'avais 13 ans, moi je suis de Camelton originairement, puis quand j'avais 13 ans, on avait un chalet à Richardville, en face de la pointe à la batterie, où les Français avaient justement mis une batterie, puis ils avaient coulé des navires, des bateaux dans la passe, dans le tunnel, pour essayer d'empêcher la flotte anglaise de les rejoindre. Eux, ils étaient, les trois navires français étaient déjà rendus à la hauteur de l'autre bord du pont, là, c'est-à-dire en amont du pont, où il y a eu après ça le monastère des Capucins. Là.
Comment a été votre expérience quand vous avez descendu et vu l'épave? Parce que les fouilles importantes ont été réalisées de 1969 à 1972.
Oui, ça a commencé en 67. Dans un premier temps, ils ont travaillé l'hiver avec des magnétomètres là, sur des toboggans tirés par... une autoneige. Puis ils ont découvert plein de vestiges métalliques, dont le premier qu'on a sorti, c'était un vieux sommier de lit. Mais finalement, les concentrations les plus importantes nous ont donné l'ancre du bateau, l'ancre du navire, le Machault, qui était le navire amiral, le navire de la Girondais. Mais c'était dans les grandes marées à mer très basse, c'était seulement à 15 pieds d'eau, puis à mer haute à 30-32 pieds, donc c'était toujours moins d'une atmosphère, ce qui voulait dire qu'on n'avait pas besoin de temps de décompression pour remonter. Mais quand vous m'avez demandé ce que j'ai vu, quelle impression que
oui.
Voir, c'est beaucoup dire, parce que justement, le lendemain de ma certification, comme plongeur, Robert m'a amené sur l'épave au bout d'une corde. Là. Lui était devant, puis moi, j'étais à l'autre bout de la corde que je tenais très bien parce que c'était ma première descente. On voyait presque rien. Puis je dois vous dire que dans presque 75% du temps, on voyait un pied, 6 pouces, 2 pieds. Puis souvent, on voyait même pas la main sur son masque parce que la rivière Estigouche a quand même beaucoup de sédiments. Puis quand il y a des grandes marées, quand la marée descendante, il y avait énormément de sédiments qui se promenaient. Donc la visibilité était quasi nulle. On a fait une vidéo, quand vous avez parlé de ma conférence, tout à l'heure vous dites que j'avais donné une conférence, c'était une conférence causerie, parce que la conférence commençait par un 20 minutes de vidéo qui a été prise au sujet de du recouvrement. Mais il y a très peu de vidéos de prises sous l'eau parce que la visibilité n'était pas assez bonne.
OK. Est-ce que vous êtes revenu dans la région pour voir un peu les artefacts qui sont exposés
au musée? J'y reviens assez régulièrement. Je suis allé au musée. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai commencé cette histoire de conférence où j'ai accepté de donner une conférence, c'est que j'essaye de pousser les autorités pour qu'ils sacrifient une petite pièce dans ce fameux musée pour montrer l'expédition de recouvrement, parce que le musée, c'est vraiment un musée très statique, c'est-à-dire qu'on parle de la bataille, on parle du fait que c'était la dernière bataille navale entre la France et l'Angleterre. C'était la bataille l'année suivant la prise de Québec pour essayer de reprendre Québec. On raconte tout ça, puis on montre des photos des dessins ou des tableaux de la Giraudais, et ainsi de suite. Et après, on monte l'épave, c'est-à-dire qu'on monte le gouvernail, on monte l'ancre et on monte environ 4000 artefacts sur les 30 000 et plus qui ont été recensés. Mais il n'y a absolument rien, zéro plus une barre, comme on dit, de l'expédition proprement dite. Puis ça, je trouve ça très décevant, parce que moi, j'étais le plus jeune des plongeurs, je pense, puis j'ai 80 ans aujourd'hui, ce qui veut dire que dans pas longtemps, il n'y en restera plus de plongeurs qui ont vécu cette expérience-là et qui pourront raconter ce que je vous raconte, justement, qui devrait être conservé dans une pièce du musée, selon moi.
Oui, peut-être avec des photos d'archives aussi, ça serait vraiment une bonne idée. Mais quelles seraient les démarches pour que ça arrive?
Ben, il faudrait que ça soit au site historique national là, qui relève de Parc Canada. Donc, il faudrait parler au ministre en question pour essayer de pousser. Parce que je me suis laissé dire que, comme c'est un musée, on parle de choses plutôt statiques, c'est-à-dire, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, qu'est-ce qui est arrivé à l'époque, puis qu'est-ce qu'on a trouvé aujourd'hui, qu'est-ce qui est des choses qui datent de l'époque. Mais comme c'est un musée, on ne parle pas de recouvrement. Je trouve ça un peu pas très intéressant, parce que si vous allez à Louisbourg, il y a quand même tout un sous-sol à Louisbourg où on montre le recouvrement de l'archéologie terrestre à Louisbourg. Donc, je vois pas pourquoi on n'aurait pas ceci, parce que je pense que ça exciterait beaucoup plus la curiosité des gens pour aller voir, aller visiter le musée. Ils verraient, ils connaîtraient l'histoire de la bataille, ils verraient les artefacts, mais en même temps, ils verraient à quel point ça a été compliqué et difficile de recouvrer cette épave qui, à l'époque, en passant, était supposément, je me suis laissé dire que supposément la plus grande expédition d'archéologie sous-marine au monde. Parce qu'on avait, vous savez, la plongée de l'archéologie sous-marine avec bonbonne autonome a été inventée pendant la guerre. Ça a été popularisé dans les années 52. Nous, on n'était même pas 20 ans plus tard, là. Ça fait qu'on faisait pas beaucoup d'archéologie sous-marine. On en faisait Robert Grenier, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui était le directeur adjoint de l'expédition, avait travaillé en 67 à Chypre, à Quirinia, en Chypre, sur un navire coulé dans le temps d'Alexandre le Grand. C'était à 100 pieds de profondeur, mais c'était pas, ils n'avaient pas besoin d'inventer toutes sortes de trucs comme nous, là, des aspirateurs à eau, des aspirateurs à air sous pression, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont utilisées dans l'archéologie sous-marine actuelle qui ont été inventées à l'Estigouche.
Okay.
Patentées, je devrais dire.
OK. Ouais. Comment c'était plongé à l'époque avec tout ce matériel-là qui était sûrement très lourd aussi?
Ben, on plonge aujourd'hui, supposément pour travailler, ça dépend à quelle profondeur vous travaillez, mais nous, on travaillait avec des bonbonnes doubles, donc bonbonnes doubles assez lourdes, qui duraient 3 heures et demie, dépendant de l'énervement de l'individu ou du taux de respiration. Mais on avait aussi... On avait été obligé de produire nos propres ceintures de plomb parce que quand on était dans le fond de l'eau, on voulait quand même rester sur le site, pas bouger trop. Il fallait pas se faire bouger par le courant, ascendant ou descendant, pour pouvoir travailler en paix. Donc, on avait des plombs là, qui nous gardaient la bédaine vraiment dans le fond de l'eau. Et comme je vous disais, les bonbonnes sont assez lourdes. C'était pas compliqué, sauf que quand on descendait le navire au complet avait été quadrillé. Si je me souviens bien, les quadrillages étaient 5 par 8, quelque chose comme ça. Et chaque plongeur travaillait dans un quadrillage qui était proprement numéroté. Et tous les artefacts qui sortaient de ce quadrillage-là portaient le numéro du quadrillage et la date de recouvrement. Mais au bout de 2, 3, 4 semaines, on était rendu à 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres plus creux. et avec les pièces de bateaux qui étaient de travers ici et là, on risquait des fois souvent de se prendre les bonbonnes au-dessus de le corps sous la pièce de bois, puis le bonbonne au-dessus de la pièce. Et je dois vous dire que ça énervait un petit peu là pour quelques secondes, à savoir si on était vraiment pris ou si on pouvait s'en sortir. Mais on a été très chanceux. 4 ans de plongée sous-marine, il y a eu un seul incident, à ce que je me souvienne. Pas d'accident, un incident. Mais on a remonté, comme je vous dis, au-dessus de 30 000 pièces d'artefacts, dont plus de 4 000 ou 4 500 sont au musée. On a remonté, en passant, 300 paires de souliers qui s'en allaient pour les soldats à Québec et Montréal. On a remonté aussi, malheureusement, beaucoup de céramique fine qui avait été mise à la sauvette dans ces navires-là pour les armateurs qui avaient investi beaucoup au Canada, voulaient retrouver leur argent. Ça fait que je pense qu'ils ont soudoyé quelques marins pour échanger des trucs qu'il y avait sur le navire contre de la vaisselle fine et des trucs qui pourraient se vendre plus facilement au Canada. Et je pense que c'est une des raisons pourquoi on a seulement trouvé un seul baril de poudre dans nos recherches. Remarquez que la plupart des barils de poudre, s'ils n'avaient pas été utilisés, auraient sauté quand ils ont brûlé les trois navires. Mais les barils, pour ceux qui sont un peu plus âgés, se souviennent peut-être que dans les années 40, 50, 60, on recevait souvent des marchandises dans les barils. Les clous, par exemple, dans une quincaillerie, ça arrivait dans les barils de 50 livres. Et on mettait la vaisselle, on mettait plein de trucs dans les barils comme ça pour le transport.
Quand vous donnez vos conférences ailleurs qu'ici, parce qu'ici, on a comme une sorte d'appartenance, comment réagissent les gens par rapport à l'histoire du macho?
Bonne question, parce que j'ai jamais donné d'autres conférences. La seule conférence que j'ai donnée, conférence causée, c'était à la Galerie Restigouche à Hamilton, okay, il y a 2-3 semaines de cela. Puis je l'ai donné tout simplement parce que Michel Gaudreau, qui est de l'Association du Macho, savait que j'avais de l'information, puis que j'essayais avec deux autres plongeurs d'Ottawa, de pousser les gens à faire quelque chose au musée. Puis là, il m'a demandé si je pouvais donner une conférence, puis je savais qu'il y avait une vidéo de 20 minutes en français et en anglais sur le recouvrement. La qualité n'est pas extraordinaire, mais bon assez pour un début de conférence. Donc, ma conférence, c'était vraiment ça, de présenter le vidéo, puis ensuite présenter une trentaine de diapositives et commenter, prendre questions et réponses. Mais c'était la seule occasion. Apparemment que les gens ont beaucoup apprécié, parce que Radio-Canada m'a appelé pour une entrevue, vous m'avez appelé pour une entrevue, il y a des gens de Hamilton qui essaient de vouloir faire un documentaire avec ce genre de conférence, on verra.
Mais ça fut
en plein mois de juillet.
Mais Monsieur Doucet, merci beaucoup pour l'entretien. Comment on pourrait avoir plus de renseignements, mis à part d'aller au musée, mais est-ce que vous vous donnez des renseignements? Est-ce que vous avez écrit certaines choses, certains documents par rapport à l'information?
Non, mais il y a eu des livres décrits sur la bataille de Restigouche qui sont fort probablement épuisés maintenant. Mais il y a eu au moins 4 livres. J'en ai des copies avec moi. Ces livres-là sont pas disponibles pour la vente le musée s'appelle pas un musée, là, ça s'appelle le lieu historique Restigouche. Donc, au lieu historique, ils ont ces livres-là pour probablement consultation, mais pas pour l'achat. Si d'autres personnes ont besoin de plus d'informations, moi, je suis partant, là, si j'ai le temps de répondre aux questions de quiconque.
En tout cas, vous avez pris le temps et c'est très apprécié, M. Fernand Doucet. Merci beaucoup pour l'entretien.
Merci à vous. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir.
Sébastien Ladouceur, Somme FM, IGL.